Bonjour, je suis Pascal Solière et c'est l'épisode 35 de ITcast du 26 août 2016. C'est un épisode de rentrée et il s'est passé beaucoup de choses pendant que vous aviez certainement d'autres priorités. Avec Stanislas, on vous a donc préparé un résumé des dernières annonces importantes. Donc dans l'ordre aujourd'hui, il est question de Windows 10, d'Azure, de PowerShell, de Windows Server 2016 et d'Hyper-V. Mais on vous a quand même habitué à plus de diversité et donc il sera aussi question de Citrix, de Docker, de Linux et de VMware. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode avec Stanislas. Bonjour à tous et je suis en ligne avec Stanislas. Salut Stanislas.
Bonjour Pascal. Bonjour à tous.
On se retrouve Stan pour un épisode de rentrée un petit peu caniculaire cette fois-ci. Hein, on l'a dit plusieurs fois mais là on est vraiment dedans.
On peut le dire, hein, la rentrée est chaude.
La rentrée est chaude et puis l'actualité est chaude aussi puisqu'il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant l'été et cette dernière semaine. Là, on sent qu'il y a des choses qui arrivent. Hein, avec l'Ignite à la fin du mois, ça va encore en rajouter. Donc il y a une actualité assez chaude dans les sujets qu'on va aborder. Donc on va parler un petit peu de Windows 10, on va parler d'Azure évidemment. De PowerShell, alors ceux qui ont suivi l'actualité savent pourquoi on va parler de PowerShell. Ceux qui n'ont pas suivi l'actualité et qui rentrent de vacances, et ben surprise, surprise. Et puis la LinuxCon, tiens, c'est un LinuxCon, pardon, prononçons-le à l'américaine, qui est l'occasion également de news en relation avec Linux. Et puis Windows Server, avec lequel quelques annonces commencent à montrer leur nez en prévision de la fameuse conférence Ignite qui sort à la fin du mois. Donc on suppose qu'il va y avoir jusqu'à Ignite quelques petites news qui vont être égrenées comme ça de temps en temps.
Donc ça parce qu'ils vont garder pour Ignite pour faire des effets d'annonce probablement.
Tout à fait. Donc Stanislas, je te propose de commencer avec Windows 10. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Windows 10 version Anniversary Update est sorti le 2 août. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'était bien le 2 août. Et elle s'appelle, bien qu'elle s'appelle la 16.07, donc juillet 2016, elle est sortie juste en limite de juillet, donc le 2 août. Elle est disponible pour tout le monde, pour le business comme pour les particuliers, et avec son lot de nouveautés. Alors, ce n'est pas une révolution, hein, l'Anniversary Update de Windows 10, mais c'est... c'est la mise à jour qu'on aura cette année en 2016 concernant Windows 10. Il a été annoncé au détour d'un article présentant les nouveautés, etc., qu'il y aurait 7 mises à jour en 2016. Ça serait la dernière de l'année calendaire 2016. Et il y en aurait 2 autres en 2017. Donc si on prévoit un calendrier à peu près d'un upgrade majeur tous les 6 mois, à peu près, ça colle, hein, d'en avoir 2 en 2017.
Du coup, au passage, on en avait déjà parlé quand on avait parlé des branches et des éditions de Windows 10. On a cette fameuse branche LTSB, donc long terme support,
oui.
Qui également, du coup, a une nouvelle ISO est disponible pour les entreprises qui ont pris l'option de partir sur du LTSB. Cette nouvelle ISO donc correspond à l'anniversary update avec les fonctionnalités figées à cet instant-là.
Exactement, donc elle s'appelle de mémoire, hein. Alors peut-être que je vais intervertir des termes, mais c'est Windows 10 LTSB 2016, quelque chose comme ça, 16.07. Et donc c'est les mêmes fonctionnalités que Windows 10 16.07 Anniversary Update, sans tout ce qui fait le côté grand public, donc tout ce qui est applications built-in modernes, le store, l'accès au Windows Store, ce genre de choses-là. On en a déjà parlé précédemment du principe de la LTSB. Donc, en même temps que l'on a sorti Windows 10 Anniversary Update, on a annoncé une simplification du modèle de servicing, donc du modèle de patch de Windows 7 et Windows 8.1. Vous savez que depuis qu'on a sorti Windows 10, donc il y a un nouveau modèle de mise à jour mensuelle de Windows 10 qui consiste à sortir toutes les mises à jour de sécurité du mois dans un seul package de mise à jour. Donc ce qui fait qu'on a une seule mise à jour à installer en termes de sécurité par mois. De plus, ce package est cumulatif. C'est-à-dire que si, un mois donné, vous installez un Windows 10 à partir du support d'origine, vous n'avez qu'un seul package à installer pour mettre à niveau l'OS que vous installez. Donc, ce qui est quand même super appréciable par rapport à l'expérience qu'on avait avec Windows 7 et 8.1 jusqu'à maintenant, où il fallait passer un certain temps à télécharger et installer un nombre impressionnant de patchs. Il a été décidé donc de faire la même chose pour Windows 7 et Windows 8.1. On va sortir également les mises à jour en cumulatif et sous forme d'un seul package par mois. Donc ça va grandement simplifier. Donc on pense aux gens qui sont encore sous Windows 7, hein, évidemment, pour leur simplifier la vie lorsqu'ils installent aujourd'hui des nouveaux systèmes Windows 7. Un seul patch à appliquer. D'autre part, Stan, tu as peut-être vu que j'ai commis quelques articles récemment.
J'ai vu que tu as passé beaucoup de temps dans des containers, plus particulièrement sur Windows 10. Est-ce que tu peux donc du coup nous détailler un petit peu ce que tu as pu faire avec Windows 10 et avec les containers Docker?
Ouais, donc dans Windows 10 Anniversary Update, il y a une nouveauté qui est les containers Hyper-V qui sont inclus dans Windows 10, donc qui permettent de faire comme sur Windows Server hein, de 2016 et d'exécuter des containers nano-serveurs sous forme de containers Hyper-V dans Windows 10. Tout ça pour aider les développeurs qui vont développer des applications nano-serveurs pour les serveurs à développer sur la machine Windows 10. Donc, on en a déjà parlé. La fonctionnalité est dans Windows et on installe par-dessus un service Docker et un client Docker pour assurer tout ce qui est interface API REST Docker, pour que ce soit compatible avec l'écosystème Docker. Donc il y a une doc officielle qui permet d'installer ceci dans Windows 10 et de le faire fonctionner. Jusqu'à cette semaine, cette doc ne fonctionnait pas parce que simplement ça ne fonctionnait pas avec la dernière version, avec la version 1.12 qui était la dernière officielle stable de Docker. Ça ne fonctionnait pas franchement du premier coup. Et donc j'avais écrit cet article la semaine dernière pour montrer comment le faire fonctionner donc avec simplement la dernière version développement du moteur Docker et du client Docker. Donc simplement, il suffisait simplement de connaître le lien de téléchargement de Docker 1.13 dev et ça fonctionnait très bien, d'où l'article que j'ai écrit. Il se trouve que là, je viens de vérifier ce matin et hier, le 24, il y a deux jours, le 24, ils ont mis à jour l'article et ils ont corrigé l'erreur et donc la doc officielle maintenant fonctionne contrairement à ce que j'ai écrit dans mon article. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, ça fonctionne. Ensuite, je ne voulais pas m'arrêter là avec les conteneurs dans Windows 10, puisque dans Windows 10, vous savez qu'on peut faire donc ces fameux conteneurs Hyper-V pour exécuter des conteneurs Windows, nano-serveurs, mais on peut aussi installer Docker for Windows, fourni par Docker, pour exécuter des conteneurs Linux, dans une machine virtuelle Linux installée par Docker, etc. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire cohabiter les deux sur la même machine? On ne sait jamais, un développeur, s'il avait une seule machine pour travailler sur ses développements Linux et Windows, ça lui simplifierait peut-être la vie. Et donc, en fait, c'est tout à fait possible. J'ai trouvé quelqu'un qui avait documenté la chose et j'ai repris le même principe que ce qu'il avait documenté. Donc, je n'ai pas inventé la solution, mais je l'ai simplement simplifié dans un article dans lequel j'explique comment faire. Donc, la solution est très simple. Hein. En fait, Docker, le démon Docker écoute sur ce qu'on appelle un endpipe dans Windows. Le client se connecte, le client docker.exe se connecte à cette endpipe pour appeler l'API REST et ça fonctionne comme ça. Donc il suffit de dire à un des deux serveurs Docker, moteurs Docker qu'on va installer sur le poste d'écouter sur un endpipe différent et puis spécifier avec le client le endpipe auquel on veut se connecter pour commander notre Docker. Et ça fonctionne. Donc ça permet de faire cohabiter les deux moteurs séparément en même temps sur le même poste Windows 10. Linux et Windows.
Ça, je pense que c'est une information qui intéressera beaucoup les développeurs Docker qui vont également faire du développement sur des containers Windows, alors qu'historiquement, ils avaient peut-être un Mac où ils faisaient du Docker sur leur Mac.
Voilà. Et donc, dernière petite chose, un petit peu nouvelle sur, sur Windows 10, du côté de l'ouverture, donc avec l'anniversary update toujours, le bash, donc le shell Linux bash sur Ubuntu sur Windows 10 est donc inclus dans l'anniversary update. Il n'est pas en, en final, c'est toujours une fonctionnalité qui est considérée comme bêta sur, sur Windows 10. Et donc j'ai écrit un tout petit article simplement pour confirmer qu'on peut installer Azure CLI, Azure CLI, hein, les new commandes Azure de type multi-OS sur le bash de Windows 10, de façon à avoir notre Azure CLI. Pareil, si on a des compétences Linux, on peut s'y retrouver dans un Windows 10 parce qu'on a un bash, et c'est plutôt appréciable. Donc, pour utiliser Azure CLI sur Windows 10, utilisez directement le bash qui est inclus dans, dans Windows 10.
D'accord. Donc, toi, tu ne recommandes pas d'utiliser en fait, l'Azure CLI dans la ligne de commande Windows, en fait.
Alors, c'est une option supplémentaire et qui est plutôt sympathique. Je dirais que quand on a l'habitude de bash, si vous avez des admins Linux qui sont obligés d'utiliser un Windows, eh ben, ils vont trouver leur petit dans, dans ce bash. Ils peuvent utiliser Azure CLI dessus, installer Node, NPM et Azure CLI. Ça se fait en trois lignes de apt-get install. Et voilà. C'est simple, simple comme bonjour, quoi.
Ok. De toute façon, on va voir dans la suite de ce podcast qu'on va offrir encore d'autres options possibles pour...
Dans l'autre sens. Et oui.
Pour l'administration. Donc, en gros, j'aurais tendance à le résumer en disant qu'on a des outils qui sont pour tous les profils d'administrateurs venant de tous les mondes, du monde Windows comme du monde Unix, Linux. Donc effectivement, là on est complètement dans cette liste d'outils en fait où tout se croise finalement. On peut utiliser des outils d'une plateforme Linux sur du Windows, des outils Windows dans Linux, etc. Donc Pascal, là on va faire une habile transition. Tu viens de nous parler d'Azure, mais côté client, avec Azure CLI sur Windows 10. Je te propose de faire une petite passe également du côté Azure, cette fois-ci, la partie plateforme cloud. C'est l'été, le ciel est clair, il est d'Azure, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces en fait, qui ont eu lieu, et beaucoup de nouveautés qui sont arrivées pendant l'été. Mm. Donc, dans les premières nouveautés, qui ne sont pas des nouveautés réellement techniques, mais plutôt des nouveautés en termes de marché, on est donc durant l'été, c'est la période classique durant laquelle en fait le Gartner release ses mises à jour de ses Magic Quadrants. Donc c'est les Magic Quadrants en fait, c'est des documents, des documents sur des sujets particuliers, par exemple le Magic Quadrant de l'infrastructure de service pour les clouds publics. Et puis en gros le Gartner analyse l'état du marché et puis positionne dans un ensemble de 4 cadrans en fait les acteurs majeurs du marché, et puis décrit pour chacun des acteurs s'ils sont dans le cadran des leaders, dans le cadran des niches, dans le cadran des challengers, etc. Et puis en fait pour chaque on va dire participant dans ces études, eh bien, il y a une petite analyse qui explique en gros où en est la société, le fournisseur Intel, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, et quelle est son évolution. Voilà. Donc, il y a des Magic Quadrants pour prendre plein de choses, mais sur la partie cloud, en fait, aujourd'hui, si on regarde factuellement, en fait, on est vraiment on va dire le leader. Si on prend le cloud dans sa globalité, c'est-à-dire infrastructure de service, plateforme de service et software de service, du point de vue du Gartner. Donc, si on regarde les Magic Quadrants, en cadran leader sur la partie cloud, on est désormais donc, dans le Magic Quadrant Application Development Lifecycle Management, Business Intelligence Analytics Platforms, Cloud Infrastructure de Service, CRM Customer Engagement Center, Data Warehouse, Disaster Recovery as a Service, Enterprise Application Platform as a Service, Enterprise Content Management, Horizontal Portal, Identity as a Service, Mobile Application Development Platform, Operational Database Management System, Public Cloud Storage Service, Salesforce Automation, Social Software in the Workplace, Unified Communication, Web Conferencing. Et alors également dans les Magic Quadrants qui ne sont pas du cloud public, mais c'est mis dans ce package-là, c'est tout ce qui est virtualisation, infrastructure de virtualisation sur serveur x86. Donc dans tout ce que j'ai cité, donc ça représente quand même, tant que je compte, 1, 2, 3, 4, 5.
Ça en fait en tout cas.
18. Voilà. 18. Sur ces 18 documents et donc marchés un peu séparés autour du cloud, sur ces 18-là, en fait, on est aujourd'hui positionné dans le cadran des leaders par le Gartner.
Et donc, il y a bien du IaaS, du PaaS et du SaaS. Dans tout ce que tu as cité, il y a vraiment les trois aspects.
Exactement, il y a les trois aspects. C'est probablement ce qui nous différencie le plus, d'ailleurs, par rapport à la concurrence. Parce que si on regarde les mêmes études et qu'on regarde nos concurrents, que ce soit Amazon, Salesforce ou encore Google, déjà, de base, on sait que chacun de ces acteurs ne se positionne pas sur l'ensemble du spectre IaaS, PaaS et SaaS. Mais ensuite, quand on regarde les comparaisons, effectivement, infrastructure de service, on va retrouver Amazon, database Amazon et puis storage Amazon, mais finalement c'est seulement les trois seuls endroits en fait où Amazon est positionné dans le cadre des leaders. Mais c'est très logique, hein, c'est eux, ils sont très ciblés, très spécialisés sur ce parti là à l'inverse, par exemple, tout ce qui est data, CRM, là on va avoir du Salesforce qui est beaucoup mieux positionné également. Et chose assez intéressante, hein, si on regarde Google, Google en fait est positionné nulle part par le Gartner dans ces différents cadrans en termes de leader.
Ah ouais.
Donc après c'est un peu logique, c'est pas leur stratégie principale, Google le cloud, hein, ça reste une société dont la majorité de l'activité est centrée autour de la connaissance de l'utilisateur et de la revente d'espaces publicitaires sous différentes formes. Donc ça peut aussi se comprendre. Donc on va dire que si on compare vraiment nos concurrents, Amazon est notre concurrent numéro un sur la partie infrastructure de service. Ils sont positionnés un petit peu plus haut dans la partie infrastructure de service, dans le cadran des leaders. Ça reste qu'on est dans le même cadran et que globalement, on est dans une direction avec une dynamique qui est légèrement plus forte qu'eux. Donc on se rapproche, même si aujourd'hui, ils sont plus haut dans le cadran des leaders. Quant à Salesforce, en fait, eux, ils sont très positionnés effectivement sur la partie data et SaaS. C'est logique, hein, c'est leur métier. Et pour le reste, il n'y a que nous dans cette zone-là, principalement. Voilà. Si on compare les trois acteurs, bien entendu. Donc là encore, tu mettras tous les liens pour aller voir les différentes études. Et donc globalement, on va dire qu'on est les seuls à offrir entre guillemets le spectre complet en termes de cloud. C'est probablement la seule chose qui est à retenir de tout ça. Et de voir qu'effectivement, en étant positionné quasiment tout le temps dans le cadre des leaders, ça prouve également la force de la stratégie et la force de la plateforme au sens large. Donc ça, c'était le petit côté, le petit moment de publicité, parce qu'on peut voir ça comme une publicité, mais ça reste que effectivement c'est un état du marché. J'encourage vraiment tous ceux qui ont un peu de temps à regarder les différentes études en fonction de leur domaine de prédilection. C'est vraiment très intéressant d'avoir un petit peu cette vision synthétique que peut avoir le Gartner des différentes offres des différents fournisseurs à l'extérieur. Maintenant, on va rentrer un peu plus concrètement sur ce qu'il y a eu de nouveau pendant l'été sur la plateforme Azure. On va commencer, Pascal, avec la partie identité.
Oui, dans la partie identité, donc Azure Active Directory, Azure AD. Et dans Azure AD, on en a déjà parlé, il y a un portail qui s'appelle My Apps, qui est utilisé par Azure AD, qui a deux fonctions, ce portail My Apps, ou qu'on appelle également, si je ne me dis pas de bêtises, le Azure AD Access Panel. Donc c'est une URL assez simple à retenir, c'est myapps.microsoft.com. Et c'est un portail qui a deux fonctionnalités. Et d'une part, c'est ce qu'on utilise dans les fonctionnalités libre-service pour que les utilisateurs puissent gérer leur compte et leur groupe. Par exemple, ils rentrent de vacances, ils ont oublié leur mot de passe, paf, ils peuvent aller sur ce portail MyApps, fournir quelques informations qu'ils avaient prévues à l'avance pour réinitialiser leur mot de passe de façon libre-service, c'est-à-dire sans solliciter le support utilisateur chez eux, dans leur entreprise. Donc ça, c'est une fonctionnalité. L'autre fonctionnalité, c'est de fournir un portail sur lequel l'utilisateur va retrouver les applications de type SaaS sur le web avec l'authentification, donc en mode single sign-on, avec simplement nécessité s'authentifier avec son identité Azure AD, et ensuite on est en single sign-on vis-à-vis de ses applications. Donc ce portail applicatif a été entièrement redesigné avec un nouveau look and feel vraiment plus moderne, notamment adapté au téléphone, hein, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Hein. Quand on allait sur MyApps avec un téléphone, on avait une page web vraiment pas faite pour le téléphone, quoi. C'était pas très joli. Ça a été entièrement revu avec des notifications, avec un nouveau système de contrôle des utilisateurs, donc des nouvelles pages également au niveau des utilisateurs, et puis pareil au niveau de la gestion des groupes, où les utilisateurs peuvent eux-mêmes gérer leurs groupes, rajouter des gens dans leurs groupes, créer des groupes, etc. Donc voilà, c'est simplement un redesign mais très, très efficace de ce portail qui souffrait justement d'un design un petit peu ancien, qui n'était pas très attirant pour les utilisateurs.
Moi, j'avoue que je préférais l'ancien, mais ça, c'est pas les goûts.
Tu préférais l'ancien ?
Ah. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas.
Hein. Voilà, je pense que nos utilisateurs préféreront quand même le nouveau. C'est plus clair, je trouve, mais bon.
Uh-huh. Du coup, tant qu'on est sur Azure AD, Pascal, on va pouvoir l'utiliser sur des nouveaux services d'Azure.
Oui, alors, donc, je n'ai vu que le titre, mais ça a l'air intéressant pour SQL Database et SQL Data Warehouse, donc deux services qui sont dans Azure, qui permettent maintenant d'utiliser Azure AD comme authentification. Donc, avec nouveaux protocoles, avec possibilité d'établir des permissions sur des bases de données SQL Database, donc en se basant sur des groupes et des utilisateurs maintenant Azure AD. Donc on aurait pu croire que c'était déjà le cas, mais c'était pas le cas. Uh-huh. Et maintenant c'est le cas, donc la boucle est bouclée également avec Azure, avec SQL.
Et puis la boucle est bouclée également avec ce dont tu viens de parler juste avant, qui est le MyApps, le portail MyApps, qui permet également de contrôler les groupes en libre service, c'est-à-dire qu'on peut déléguer par exemple une gestion métier leur capacité d'ajouter ou de supprimer des gens dans un groupe Azure Active Directory. Et du coup, ça peut directement aller en association avec l'accès ou pas des databases SQL ou des SQL Data Warehouse. Parce qu'effectivement, en self-service, via le MyApps, on va pouvoir contrôler l'ajout ou la suppression de comptes au sein de groupes Azure AD sans pour autant aller demander à l'IT, entre guillemets. Voilà.
Cool.
Donc ça, les deux vont assez bien ensemble. On continue dans les nouveautés, encore en preview. Donc ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, hein. Je pense presque, je dirais presque un an en fait. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, à Ignite l'année dernière avait été annoncé ce qu'on appelle les séries N d'Azure. Donc ce sont des machines virtuelles qui intègrent en fait des GPU, d'accord, GPU de chez NVIDIA, permettant en fait deux types principaux de scénarios. Donc on va dire que le premier scénario, c'est pouvoir tourner en fait des applications de type HPC, qui vont faire du calcul sur CUDA ou sur OpenCL. CUDA, je rappelle, c'est les librairies de chez NVIDIA, donc pour faire du GPGPU. Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir des machines virtuelles qui intègrent des cartes graphiques, on va dire, virtualisées, pour faire simple. Mais donc, en fait, derrière, il y aura bien des cartes graphiques dans les châssis des serveurs. Et donc, c'est d'avoir des machines virtuelles avec ces fameux GPU qui permettent effectivement de faire du HPC basé sur du GPU avec des machines qui sont effectivement dans nos data centers. Donc ça, c'est le premier scénario. Pour faire du GPU, donc du CUDA ou de l'OpenCL, il y aura en fait trois modèles de machines virtuelles disponibles. NC6, NC12, NC24. Le nombre derrière correspond, le 6, 12 ou 24 va correspondre au nombre de cœurs disponibles dans cette machine virtuelle. Et ensuite, en fonction de la classe, 6, 12 ou 24, on aura, alors, en 6... un GPU K80, donc ce qui correspond à une demi-carte graphique physique, sur la machine virtuelle. Si on est en version 12, on aura deux GPU K80. Et si on est en 24, 4 GPU K80. Ouais. Donc ça, c'est les premières choses. Deuxième scénario utilisable pour les séries N, ce sera des scénarios de type visualisation. Donc on va dire tout ce qui est accélération d'applications un peu graphiques traitées côté serveur et utilisation en fait de bureaux virtuels. D'accord. Donc là l'idée c'est effectivement faire traiter le rendering, de générer le côté rendering et la compression côté machine virtuelle Azure, et après on déporte le tout directement sur des clients légers. Donc là, là-dessus on sera sur... un autre, enfin toujours des séries N, mais dont les noms sont différents. Donc le NC, le C était pour compute. Là, on va avoir les NV, donc NV pour visualisation. Et là encore, on a 6, 12 et 24. Et cette fois-ci, en fait, on ne sera pas sur des GPU derrière et des cartes physiques NVIDIA de type K80, mais on sera sur des M60, un peu différent. Et là encore, on aura des coups d'à derrière, et donc ça permettra d'avoir de la visualisation et du VDI, on va dire, haute qualité, pour faire ces choses-là. Donc là, c'est vraiment prévu pour des applications très, très graphiques, où on veut faire le traitement en fait à distance, et du client DG derrière. Donc en gros, grosse puissance des data centers. Et donc sur cette public preview, parce que là, on est encore sur une public preview, hein, on en a beaucoup parlé en fait dans les derniers mois des sériennes, mais c'était toujours pas arrivé et disponible du point de vue public. Donc là, on n'est toujours pas en version generally available, c'est-à-dire version finalisée. On est encore sur de la preview. Donc tous les data centers, toutes les régions d'Azure ne sont pas encore équipées de ces sériennes. Mais l'idée derrière aussi, c'est que quand on parle de VDI, on s'est associé avec des spécialistes, entre guillemets, de ce type de technologie. Et notamment, on sait, un des partenaires qu'on a, avec lesquels on commence à travailler, s'appelle TerraCity. Alors TerraCity, je ne sais pas si tu connais, ils ont en fait une technologie qui s'appelle PC over IP, souvent utilisée avec du VMware en fait. Donc en gros, ils ont leur propre protocole, leur couche protocolaire de déport d'affichage, entre guillemets, qui est optimisée, avec des fois des clients légers optimisés. Et donc l'idée, c'est qu'on a déjà travaillé avec eux en fait pour pouvoir utiliser ces séries NV avec derrière les technologies PC over IP. Voilà. Okay. Donc là, on est vraiment sur du VDI pour des applications très consommatrices en termes de rendu, etc. Donc je pense à des choses comme de l'AutoCAD, de l'Adobe Premiere Pro, etc. Voilà.
On parlera de VDI dans 2 minutes, je crois.
Exactement. Donc il y aura pas mal de choses qui vont être annoncées. Donc là, cette version préliminaire aujourd'hui, elle a démarré, d'après ce que j'en ai lu, elle est disponible dans la région South Central. Donc c'est région États-Unis du Sud. Donc ça veut dire que si vous cherchez ces machines virtuelles, il faudra instancier un nouveau ressource group et une nouvelle machine virtuelle dans cette région qui donc a des data centers avec des machines qui elles-mêmes ont des GPU. Voilà. Eh bien, tant qu'on est sur le VDI, on a eu également une annonce qui a été faite durant l'été. Alors, une annonce autour de Azure Remote App, qui, comme tu le sais, Pascal, est un service qui existe depuis déjà un an ou deux, je crois, et qui est un service permettant en fait d'instancier des serveurs de type RDS, Remote Desktop Server, dans Azure, et donc en gros de déporter ces fermes de terminaux et d'applications distantes directement dans Azure. Si tu as suivi l'actualité, il y en a parlé dans un ITcast précédent autour de nos partenaires, Citrix, en fait, lors de sa dernière grande conférence mondiale qui a eu lieu au mois de mai, a annoncé en fait un changement dans sa stratégie en indiquant qu'ils allaient désormais développer au maximum leur offre côté cloud en se basant sur un partenaire plus ou moins exclusif qui va être Azure. Donc ils misent tout en gros sur notre plateforme. Et du coup, probablement au sein des négociations qu'il y a pu y avoir entre Microsoft et Azure, finalement, on a choisi en fait d'arrêter à assez court terme, parce que l'arrêt est planifié en fait pour l'année prochaine en fait, d'arrêter en fait le service Azure Remote App. D'accord. Donc ça, c'est vraiment en fait suite en fait à cet accord de partenariat worldwide avec Citrix sur la partie remote desktop. Et donc en gros, par rapport au feedback qu'on a eu, par rapport à globalement l'usage du marché, il devient finalement plus logique de mettre en avant Citrix, qui fait ça très très bien, donc au travers de XenApp Express notamment, de dire pour les parties VDI dans le cloud, ce sera Citrix derrière notre plateforme Azure. Et donc en fait, on va graduellement en fait arrêter, on va dire, le service Azure Remote App et proposer, bien entendu, pour nos clients actuels, une solution en fait de migration, donc soit migration vers les services de Citrix qui seront dans Azure, soit une migration sur une base de machines virtuelles, par exemple des RDS déployées dans Azure. Voilà. Donc le support en fait il va continuer d'Azure Remote App, donc on n'arrête pas comme ça du jour au lendemain.
Bien sûr.
La fin prévue en fait est le 31 août 2017, date à laquelle le service sera officiellement éteint. De la même façon, pour limiter effectivement que des gens commencent à utiliser le service et s'aperçoivent que quelques mois après il est arrêté, on a choisi en fait d'arrêter en fait la création de nouvelles instances Azure Remote App et l'achat d'Azure Remote App à partir du 1er octobre 2016. Ce qui arrive là, par contre, relativement rapidement. Voilà. Okay. Donc voilà, c'est un peu dommage que c'est un service qui s'arrête, mais finalement, il s'arrête parce qu'il y a probablement une meilleure option à côté qui sera également basée, en partie, enfin, basée sur Azure, mais avec notre partenaire historique Citrix. De toute façon, on s'aperçoit que vraiment souvent dans les environnements VDI un petit peu conséquents, le choix se faisait souvent avec Citrix et notre techno qui était sous-jacente. Je pense que le partenariat, en fait, il existe depuis quasiment 20 ans et, ouais. Et il va demeurer.
Ouais. Ça a le mérite de clarifier les choses, au moins. Voilà, il n'y a pas de questions à se poser à partir de l'année prochaine.
Exactement, exactement. Même à partir d'ailleurs de...
À partir de maintenant, oui.
Voilà. Donc, côté Azure, dans l'été également, on a eu quelques petites nouveautés sur Azure Stack. Donc, l'équipe produit a distillé quelques petites informations complémentaires. On n'avait pas trop d'informations sur Azure Stack depuis la Technical Preview 1 et puis les quelques mises à jour updates qui avaient pu tomber sur cette Technical Preview 1. On attendait toujours d'avoir des nouvelles d'une Technical Preview 2. Donc, il va bientôt y avoir une Technical Preview 2 qui va arriver. Elle sera d'abord... donc, elle a déjà été donnée à quelques, on va dire, early adopters, quelques clients qui étaient dans des processus de, on va dire, de test en bêta avec nous, d'accord. Et la release publique, donc pour tout le monde, de cette Technical Preview 2 d'Azure Stack sera annoncée publiquement prochainement, je pense probablement à Ignite, et donc elle sera disponible un petit peu plus tard cette année, donc je pense que d'ici avant la fin de l'année calendaire, on aura accès à une TP2 d'Azure Stack. On a également... pas mal parlé de comment ça va se passer dans un premier temps sur Azure Stack quand il sera disponible. Donc ce qui a été dit, c'est que dans un premier temps, il va y avoir une mise en avant et une priorisation en fait d'intégrateurs système tels que Dell, HP Enterprise ou Lenovo, et que effectivement Azure Stack sera disponible sur ces plateformes-là uniquement dans un premier temps. C'est-à-dire que tu ne pourras pas en fait mais acheter ou récupérer Azure Stack et le déployer sur le matériel que tu as envie. Ça, c'est dans un premier temps. La raison en fait, qui a été expliquée, et tu donneras le lien, il y a une vidéo de 11 minutes où il l'explique très bien, c'est qu'en fait, Azure Stack, quand il va être réellement en version de production, non pas de preview, va évoluer de manière relativement rapide avec les cycles qu'on peut avoir dans Azure. Tu vois que dans Azure, on a constamment des nouveautés. La preuve, on fait des podcasts régulièrement pour simplement donner l'actualité d'Azure. Eh bien, l'idée de l'équipe Azure Stack, c'est de pouvoir également faire évoluer les plateformes chez nos clients des plateformes Azure Stack de manière relativement rapide également. Ouais. Et donc, ça veut dire que en ayant, dans un premier temps, une liste de partenaires et de matériel référencé relativement faible, ça permet d'être sûr que tout ce qui sera comme mise à jour qui tombera sur Azure Stack aura été bien testé au préalable avant d'être envoyé pour mise à jour sur la production. Donc c'est principalement leur raison en fait. C'est simplement pour une raison de fiabilité et de, on va dire, de bonne tenue de la plateforme, entre guillemets, de production, malgré des changements qui vont être relativement rapides. D'accord. Ensuite, il a été annoncé également que tous les clients aujourd'hui qui ont pu investir dans du CPS, donc du Cloud Platform System, qui est donc une solution packagée de cloud privé basée sur des technos Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2 et Windows Azure Pack. Donc aujourd'hui, on peut en acheter ce type de solution packagée chez Dell, HP ou encore Nutanix. Là encore, ils sont en train de travailler pour pouvoir faire fonctionner une intégration en side-by-side en fait, entre du CPS WAP et de l'Azure Stack. Et puis après, effectivement, permettre de gérer directement depuis le portail Azure Stack des ressources qui seront sur un CPS. D'accord ? Le tout pour faire une migration dans la plus simple possible pour le déploiement futur d'Azure Stack, qui n'est pas de bloqueur, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est ce qui a été annoncé principalement. Ils ont également dit que dans la Technical Preview 2, on partirait sur un minimum de 4 machines pour créer l'environnement Azure Stack Technical Preview 2. Voilà. Donc on est déjà sur des infrastructures un peu plus conséquentes, pas forcément très grosses, ça reste que 4 machines, mais du coup, il va falloir y penser si vous prévoyez par exemple de monter une plateforme d'intégration ou de test, Il va falloir avoir ce genre de choses. Dans un premier temps, il vaut mieux partir sur du matériel Dell, HP ou Lenovo. Ils n'ont pas expliqué s'ils allaient coder en dur le test de vérifier si c'est bien du Dell, du HP ou du Lenovo. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est vraiment de packager dans un premier temps et de vendre des offres toutes packagées par Dell, HP ou Lenovo pour Azure Stack, simplement pour effectivement être certain que quand il y aura plein de mises à jour qui vont tomber régulièrement, elles aient été bien testées au préalable sur des configurations matérielles qui ont été certifiées. Voilà.
Cool. Petit sujet qui n'a aucun rapport avec ce qui précède, Docker for Azure. Docker for Azure, c'est une fonctionnalité qui a été annoncée par Docker à la dernière DockerCon, donc la dernière conférence Docker récente au mois de juin. Et c'est une fonctionnalité qui permet de déployer des clusters de machines Docker, donc des Docker Swarm, dans Azure de façon très simple. Donc en fait, c'est un template ARM qui déploie un cluster Swarm dans Azure. Et ce cluster, il utilise vraiment très bien les fonctionnalités de Azure. Donc il utilise notamment pour les workers, pour les nœuds qui sont des worker nodes Docker, il utilise les VM Scale Set d'Azure. Et il s'appuie également sur le load balancer d'Azure pour exposer de façon dynamique les services qu'on va installer dans les applications containerisées qu'on va installer dans le Swarm. Par exemple, si j'installe un Nginx, si je déploie un Nginx sur mon cluster et que je spécifie donc que je veux que le port 80 soit exposé, automatiquement, le load balancer d'Azure va être configuré pour exposer le port 80 sur le Swarm. Donc c'est plutôt pas mal fait. Alors comment ça se passe ce truc-là ? C'est une fonctionnalité qui est pour l'instant en preview privée chez Docker. Donc il faut demander sur beta.docker.com un accès. Une fois qu'on a un accès, qu'on est accepté dans la bêta privée, on reçoit un mail. Et dans ce mail, il y a le lien pour déployer, comme vous connaissez bien ce lien Deploy to Azure, hein, où on fait le lien vers le template. Ce lien est directement dans le mail, on clique dessus et on peut aller déployer son cluster Swarm de test. Pensez bien à spécifier, lorsque vous demandez votre accès à la bêta, le guide de votre abonnement Azure sur lequel vous voulez que ce soit installé, puisqu'il faut faire le lien. Hein, c'est classique dans Azure, hein, il faut faire le lien entre l'abonnement et les fonctionnalités bêta qu'on veut activer sur notre abonnement pour avoir accès au template. Donc une fois qu'on fait ça, ben c'est assez simple. On spécifie quelques paramètres, notamment le nombre de nœuds qu'on veut dans le cluster, le nombre de managers qu'on veut, etc. Les noms qu'on veut donner au cluster, aux machines virtuelles, etc. Et on se retrouve au bout de quelques minutes avec un cluster fonctionnel. N'oubliez pas, si vous testez, de vérifier les outputs du template. Hein, une fois que c'est déployé, on a des outputs, et notamment, on a deux choses intéressantes. Le nom pour se connecter en SSH au manager, et puis le nom DNS des services publiés dans le cluster, qui sont nécessaires pour accéder au service. Puis ensuite, je vous laisserai lire la suite dans l'article que j'ai consacré à cette fonctionnalité. Ça fonctionne plutôt bien, et je montre dans l'article également comment, à partir d'un service, par exemple, je prends Nginx comme service, c'est très simple, en deux commandes, de le publier, et puis ensuite de le faire scaler, donc de le passer à l'échelle, de dire, par exemple, ben maintenant j'en veux 12 instances, ça se fait en deux lignes, et ça se fait instantanément. Simplement en utilisant le nouveau moteur 1.12 de Docker.
Alors, oui, la version a son importance, Pascal, parce que pour ceux qui ne le savent pas, entre le 1.11 et antérieur et le 1.12, il y a eu un radical changement dans le design et l'architecture de Docker Swarm. Et donc, tout ce que vous avez pu connaître avant, où il y avait des masters qui pilotaient en gros des esclaves, donc les nœuds de contrôle et les nœuds où il y avait les moteurs Docker, ça maintenant tout est fusionné sur les mêmes machines. Donc on pourrait appeler ça une sorte d'hyperconvergence des masters et des slaves. Mais du coup, ça veut dire que tout ce qu'on a pu raconter avant sur les templates pour déployer du Docker Swarm depuis Azure Container Service n'est plus valable dans cet exemple-là, en fait. D'accord ?
Ouais.
Du coup, c'est important de partir sur effectivement la nouvelle approche de Docker et donc leur dernière version également du moteur. On reparlera des versions tout à l'heure. J'aurai deux, trois choses à raconter aussi.
Cool. Et donc, tu voulais terminer la partie Azure, Stanislas, avec quelque chose de plutôt important pour nos admins et admins, qui est OMS.
Exactement. Alors, OMS, Operation Management Suite, plus particulièrement un élément d'OMS qui s'appelle Azure Logs Analytics, que vous pouvez trouver dans le portail moderne sous le nom d'Azure Logs Analytics, dont la fonction principale, en gros, est de collecter de manière massive des journaux provenant de différentes sources pour ensuite en fait travailler, cruncher ces données et en sortir quelque chose d'intelligible, d'être capable de rechercher facilement des informations par rapport à des critères donnés, etc. Donc, on peut mettre plein de logs différents dans OMS, on en reparlera tout à l'heure un petit peu pour la partie Linux. Moi, ce qui m'a intéressé ce mois-ci, en fait, même c'était hier, en fait, pour être plus précis, c'est qu'on a annoncé en fait, qu'on va pouvoir désormais en fait, prendre les logs de Cisco ASA, donc d'équipement Cisco, type firewall, et en fait, forwarder ces logs directement dans OMS, au travers de l'agent Linux en fait, et d'utiliser en fait OMS pour analyser ces logs. D'accord ? Donc je rappelle que vraiment le OMS ou plutôt Logs Analytics, vraiment le but c'est de traiter a posteriori en fait un ensemble de volumétrie de logs qui de base sont abscons. Et là l'idée après c'est d'en sortir quelque chose d'un plus intelligible. Donc on va avoir cette intégration qui va être donc possible. Et donc, c'est les ASA, donc les Adaptive Security Appliance de Cisco, vont pouvoir donc remonter ces informations. Et on va les utiliser plus particulièrement dans une sous-partie d'OMS qui s'appelle OMS Security and Audit Solution. Donc, en gros, ça va permettre, dans un dashboard sécurité, de remonter de manière plus pertinente, en gros, les informations qui ont été renvoyées par ceux ou ces firewalls qui seront utilisés. Au passage, ça permettra par exemple d'indiquer effectivement s'il y a des comportements bizarres liés à ce qui a été logué dans le Cisco, s'il y a eu de la donnée qui est partie vers des endroits, des adresses IP particulières, etc. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment pas mal de choses là-dedans qui vont pouvoir être faites. Et là, on est vraiment sur là encore une stratégie à long terme où OMS en fait, va vraiment devenir un collecteur de logs provenant vraiment de sources multiples. Historiquement, c'était du Windows. On a de plus en plus de choses sur Linux. On va avoir des choses sur Docker, on va en parler tout à l'heure. Et là, on voit qu'on commence à amener également les équipements de sécurité. Là, on a Cisco ici. On est encore sur de la preview aujourd'hui, mais vraiment, l'idée, c'est ça. Collecter les events d'un Cisco ASA et les traiter ensuite directement dans OMS pour pouvoir en sortir des choses intelligibles et collecter le tout et pour pouvoir également sortir des dashboards dans OMS Sécurité.
Cool. Eh bien, Stanislas, je te propose de passer au chapitre suivant qui concerne en fait une actualité qui a plutôt fait du bruit sur Twitter et compagnie, juste avant la conférence LinuxCon qui a eu lieu cette semaine. Donc la semaine dernière, on a annoncé la mise à disposition en open source de PowerShell et donc en même temps la publication de versions de PowerShell open source sur Linux et sur macOS. Donc ça a fait pas mal de bruit cette histoire, c'est super intéressant, enfin en y réfléchissant un peu, alors c'est sûr que tout le monde y allait de ses petits commentaires là-dessus et tout le monde était un petit peu entre guillemets sur les fesses hein, vis-à-vis de cette annonce. Ça fait un petit peu la boucle entre le fait qu'on a Bash dans Windows et ben maintenant on se retrouve avec PowerShell dans Linux. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est assez étrange comme principe. On aurait pu le sentir venir parce que déjà l'équipe PowerShell en parlait il y a de ça quelques temps déjà dans ses objectifs à long terme. Très récemment il y a eu la sortie en open source de .NET Core, cette version réduite de .NET qui est utilisé pour développer des applications et qu'on retrouve à l'identique dans NanoServer. Et à ce propos, on peut tout à fait faire le lien entre PowerShell sur Linux sur .NET Core et PowerShell sur NanoServer qui utilise également .NET Core. On est au même niveau de fonctionnel par rapport à un .NET complet et un PowerShell complet qu'on va retrouver dans un Windows complet. Et donc voilà. Et là où je trouve ça intéressant, et je ne sais pas si toi Stan, tu auras un point de vue complémentaire ou quoi, mais des admins Linux maintenant qui doivent s'ouvrir à Windows, eh bien, vont pouvoir le faire grâce à Bash dans Windows. Des admins Windows qui connaissent bien PowerShell, parce qu'on les a matraqués depuis des années en leur disant tous les jours, mais utilisez PowerShell. Si un jour ils sont obligés de faire du Linux, eh bien, ils vont retrouver de quoi utiliser leurs compétences PowerShell sur un environnement Linux. Et donc c'est super sympa pour ces gens-là qui comme tout le monde, hein, sont obligés de s'ouvrir un petit peu à d'autres choses que ce qu'ils faisaient habituellement depuis des années. Donc la réutilisation de compétences, plutôt sympa.
Tu as dit, l'admin Windows peut faire du PowerShell sous Linux, et l'admin Linux peut faire du Bash sous Windows.
Oui.
Et du coup, on a également l'admin Linux qui est sur un Mac peut faire du PowerShell sous Windows.
Oui, si on veut. Voilà. Et en même temps, parce que c'est pas fini, dans ce PowerShell version 6, puisqu'il s'agit de ça, hein, c'est la future version de PowerShell qui va sortir, là on est en alpha, hein, si on veut, il y aura également OpenSSH utilisé comme transport pour les connexions à distance de PowerShell. Donc c'est quelque chose... ça, c'était un peu mon dada, ça, l'absence d'OpenSSH, de SSH dans Windows. Et ça vient, quoi. Ça vient en tant que transport natif de PowerShell, donc d'admin à distance de Windows. Donc voilà. Donc PowerShell, pour l'installer sur Linux, eh ben, c'est très simple. On fournit en fait des packages tout faits pour Ubuntu 14.04, 16.04, pour CentOS 7 et macOS 10.11, donc la dernière version de macOS. Donc ce qui fait donc Ubuntu, CentOS et macOS, donc trois environnements sur lesquels on a les packages tout faits. Et également Windows 8.1, serveur 2012 R2, Windows 10, serveur 2016. Donc on a les versions alpha donc de PowerShell 6.0 pour les Windows également. Donc sur un Linux, ben c'est très simple, on récupère le package .deb pour, si on est sur un Ubuntu, et on l'installe avec dpkg-i, et on installe le package. Après, deux dépendances à installer, bon, qu'on a souvent déjà par défaut précédemment. Donc c'est très simple. Encore plus simple, vous mettez ça dans un container, si vous ne voulez pas l'installer directement sur votre Linux de prod, entre guillemets, et c'est parti, quoi. C'est très simple à faire, je vous ai mis un Dockerfile de quelques lignes pour faire ça très rapidement. C'est vraiment super simple à tester. Ça fonctionne, ça apporte donc tout ce qui est objet, le pipe d'objets, etc. dans Linux. Ça apporte également un service d'éditeur de texte, éditeur de programmation qui va permettre donc de développer d'interfacer plutôt des éditeurs de texte aux fonctionnalités riches d'édition de code PowerShell. Donc aujourd'hui, il y a Visual Studio Code. Je rappelle qu'il existe sur Mac et sur Linux aussi, qui permet de s'interfacer avec PowerShell et de faire du debug et de faire du pas à pas. Par exemple, dans la même fenêtre de Visual Studio Code, vous avez un petit peu donc comme dans l'IDE classique de PowerShell sous Windows, le source et puis la ligne de commande en dessous pour tracer ce que vous faites pas à pas quand vous faites des F8, quand vous exécutez des lignes une par une, quoi. Vous pouvez également le faire avec Sublime aujourd'hui, qui est un éditeur de texte très connu dans le monde sur Mac et Linux. Et puis évidemment, comme c'est ouvert, c'est open source, tout ça, d'autres éditeurs vont pouvoir s'interfacer là-dessus. Donc c'est sur GitHub, c'est téléchargeable sur GitHub, c'est documenté avec une doc assez pas mal faite pour les gens qui n'ont jamais vu PowerShell et qui viennent du monde de Linux, qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent pas du tout. Il y a une doc pour commencer avec PowerShell, pour se familiariser avec, qui peut être intéressante. Il y a des vidéos évidemment qui ont été publiées par notre ami Jeff Reisnover et ses collègues de l'équipe PowerShell qui font des démonstrations, une série de démonstrations très courtes et très, très marquantes, très intéressantes. Par exemple, comment, évidemment, on ne va pas ignorer l'existant, le passé et le présent sur Linux. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait du PowerShell qu'on va oublier qu'on fait aussi du Python et du Shell, etc. Et donc, on montre comment on peut interfacer tout ça. Par exemple, interagir entre un script PowerShell et des scripts Python dans le même script, par exemple, ce genre de choses là. Voilà, donc tout ça a été annoncé juste avant la LinuxCon. Tu voulais dire également, Stanislas, qu'il y avait une extension Visual Studio Code.
Ouais, à Visual Studio Code, en fait, il y a une extension PowerShell qui existe. Du coup, bah, ça peut être intéressant, hein, parce que, ouais. comme tu l'as dit, on peut avoir Visual Studio Code sur Mac ou sur Ubuntu. Et comme on peut avoir PowerShell désormais réellement sur Mac et sur Ubuntu, c'est cool d'avoir un éditeur qui comprenne bien ce que la syntaxe de PowerShell. Donc voilà, c'est le petit plugin qui vient se rajouter. Là encore, on a mis les liens sur le GitHub pour pouvoir installer ce plugin Visual Studio Code PowerShell.
Donc je voudrais terminer avec PowerShell sur Linux en disant que aujourd'hui, donc ils ont écrit un module spécifique pour CronTab. Donc ça veut dire que on va faire des efforts également pour fournir des modules vraiment PowerShell, 100% PowerShell, pour utiliser des fonctionnalités de l'OS sous-jacent, donc que ce soit macOS ou Linux. Donc comme par exemple CronTab. Donc quand on connaît pas CronTab, eh ben c'est pas mal d'avoir des fonctions PowerShell qui simplifient un petit peu la chose. C'est beaucoup plus simple, quoi. Pour des gens comme moi, par exemple. Et puis donc il y a des tests qui ont été faits. Il y a des choses qui sont en cours aussi pour adapter des modules PowerShell bien connus à cet environnement PowerShell sous Linux, par exemple. Les modules Azure vont fonctionner sur PowerShell Core et donc PowerShell sur Linux. Donc en plus d'Azure Cli, vous aurez aussi l'option d'utiliser PowerShell pour gérer Azure depuis Linux. Ce qui est plutôt cool. Donc ces annonces de PowerShell ont été faites juste avant la conférence Linux, la LinuxCon, qui entre parenthèses s'appelle LinuxCon et ContainerCon. Il y a deux parties, hein, Linux et Container. Et donc il y a eu pas mal de présence Microsoft dans ce salon. Il y a eu notamment des photos, je ne sais pas si vous avez vu des photos de Linus Torvald visitant le stand Microsoft avec toute l'équipe PowerShell. C'est épique quand même. C'est comme je l'ai tweeté récemment, là, il y a un contraste saisissant entre cette ambiance et l'ambiance qu'on avait il y a une douzaine d'années. Hein, Stan, tu étais avec nous, je crois, sur les salons Linux à Paris.
On jetait des cailloux.
Voilà, on avait des projectiles, ouais. Ça a bien changé. Et donc, Stan, tu voulais parler d'une annonce concernant, faite à la LinuxCon concernant Azure.
Ouais, alors en fait, à la LinuxCon sur Azure, bon, on a reparlé un petit peu de tout ce qu'on a pu faire déjà en termes d'open source, que ce soit .NET Core, que ce soit Linux sur Azure, etc. Mais également, on a fait quelques annonces sur OMS, donc Operation Management Suite, hein. Plus particulièrement, là encore, Azure Logs Analytics, hein, pour être précis, hein, chaque fois. Tout le monde dérive un petit peu le nom, mais c'est... Donc, il y a eu deux éléments qui ont été cités, qui sont vraiment nouveaux, hein, qui sont sortis, du coup, durant la LinuxCon. Le premier, c'est tout ce qui est gestion de Linux dans OMS. Donc, en gros, on a refait un nouvel agent pour Linux, un agent OMS pour Linux, basé sur le projet open source FluentD. Et donc l'agent OMS pour Linux est passé durant cette conférence en mode GA, donc Globally Available, donc on est plus sur une preview. Et donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement remonter les informations depuis des environnements Linux. En information, c'est quoi? C'est des journaux ou c'est des compteurs de performance, d'accord? Et de les centraliser dans notre plateforme d'analyse qui est donc Azure Logs Analytics, partie d'OMS. Donc, on va pouvoir remonter des syslogs, on va pouvoir remonter des informations, des alertes provenant de serveurs Nagios ou de serveurs Zabbix. Et puis, globalement, avec l'agent tel qu'il est aujourd'hui, on dispose de compteurs, on va dire quasiment temps réel de performance, une cinquantaine environ, plus que quelques données relatives à certaines applications pourront être traitées. Donc, cet agent OMS, donc, il vous permettra de centraliser, du coup, de remonter de l'information depuis des serveurs applicatifs ou des équipements réseau basés sur du Linux. Hein. Tout à l'heure, on parlait de Cisco qui était également un équipement anti-réseau et qui remonte des informations dans OMS. On va pouvoir visualiser quasiment en temps réel, on va dire, les performances de machines Linux, quelles qu'elles soient. Et puis ensuite, on va pouvoir également amener des informations, des journaux d'applications diverses et variées, mais spécifiques, en utilisant simplement ben, les quelques 300 plugins FluentD qui existent. Hein. Je le rappelle, hein, l'agent est basé sur FluentD, donc on va pouvoir réutiliser effectivement les plugins de FluentD. On va pouvoir centraliser du coup ben, les infrastructures qui sont elles-mêmes monitorées par Nagios ou Zabbix. Et puis la récupération des compteurs de performance, en fait, on va le faire en fait au travers de l'agent OMS qui utilise en fait CollectD ou StatD, tout simplement.
D'accord.
Donc les environnements supportés ben, sont relativement larges pour cet agent OMS. Je pense qu'on couvre, on va dire, la majorité des grosses distributions utilisées, donc ça va aller de Debian 6 à Debian 8, tout ce qui est Ubuntu de la 12 à la 16, SUSE de la 10 à la 12, Oracle de la 5 à la 7, CoreOS dans ses différentes déclinaisons alpha, beta et stable, Red Hat 5X à 7X, CentOS 5X à 7X, et je crois qu'il ne me reste qu'une seule type de distribution, entre guillemets, ça va également fonctionner pour des instances de machines virtuelles basées sur les AMI Amazon, donc de septembre 2013 à septembre 2015. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on essaie de monter, la surveillance et la collecte d'informations des serveurs Linux de manière aussi bonne que ce qu'on faisait historiquement avec les environnements Windows. Voilà, ça c'était la première annonce, c'était effectivement le management de Linux avec OMS. Sachant qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver par la suite, du genre surveillance de l'état des updates des différentes distributions, etc., etc. Il y aura plus d'annonces qui vont arriver plus tard, mais l'idée vraiment c'est de faire Linux ce qu'on appelle un first client, c'est-à-dire un environnement qui a autant de valeur pour nous que l'environnement Windows en termes de surveillance. Deuxième élément, tu as dit que la LinuxCon, c'était Linux et les containers. Et ben du coup, côté OMS, on a annoncé également un package d'intelligence, un package de management qui va s'appeler OMS Container Solution for Linux. Donc c'est quoi ? Et ben en fait, c'est la capacité de surveiller des environnements de type container Docker, d'accord ? Et de, là encore, de collecter l'information en termes de journaux et en termes de performance directement pour des serveurs avec des moteurs de conteneurs ou tout simplement pour des conteneurs donnés. Donc qu'est-ce que va faire en fait la solution ? Eh bien, elle va donc centraliser, corréler des logs provenant de plein de conteneurs Docker, d'accord ? Mm-hmm. Elle va permettre de voir quasi en temps réel l'état des conteneurs, l'état des images et l'affinité entre conteneurs. Elle est également capable de diagnostiquer de manière assez rapide quels sont les mauvais voisins ou les voisins perturbants en termes de conteneurs. Donc, c'est-à-dire que si on a un Docker host et dessus 5 conteneurs, dont un des conteneurs qui a tendance un peu à s'accaparer l'ensemble des ressources au détriment des autres conteneurs, en fait, on appellera ça un noisy netboard ou un voisin bruyant.
D'accord.
Voilà, et donc du coup, on pourra le détecter au travers de ces consoles qui sont relativement visuelles. On pourrait également rechercher, visualiser, surveiller tout ce qui est les stats de performance classiques hein, dans les containers, CPU, mémoire, stockage et utilisation réseau. Alors là, je dis quasi en temps réel, on est plutôt sur une métrique qui au minimum est d'une remontée d'information toutes les 10 secondes. D'accord. Donc on est presque sur le temps réel, mais c'est pas du temps réel, hein. On est quand même sur une vision à 10 secondes. Dernière chose, tout ce qui est information de sécurité, etc., là encore on va pouvoir les traquer directement avec OMS. Alors, le point moi qui me gêne un tout petit peu tout de suite, et tu le sais parce qu'on en a discuté hier, c'est que par contre, aujourd'hui, dans l'état de cette version préliminaire, parce qu'on est sur une version préliminaire, une preview publique, c'est qu'on ne supporte pas tous les OS et on ne supporte pas toutes les versions de Docker. Donc, on supporte du côté Linux Ubuntu 14.04 et 15.10, donc ça veut dire qu'il nous manque la 16.04. On supporte CoreOS Instable, on supporte Amazon Linux de mars 2016, OpenSUSE 13.2, CentOS 7, SUSE Linux Enterprise Server 12 et Red Hat en version 7.2, RHEL en version 7.2. Mmh. Donc, ça veut dire que si on n'est pas déjà dans ce sous-ensemble de distribution Linux, la solution pour l'instant ne va rien remonter entre guillemets. Donc je le dis parce qu'en fait j'ai été confronté au problème où j'ai instancié naturellement les dernières Ubuntu en 16.04 et puis je me suis aperçu effectivement que ça ne remontait pas d'informations. Deuxième élément également, c'est que le moteur Docker qui est aujourd'hui monitoré par cet agent OMS, là encore pour les conteneurs qui est en version préliminaire, va de la 1.8 à la 1.11.2. 1.11.2, c'est-à-dire qu'on est avant, entre guillemets, la nouvelle version 1.12 qui est sortie durant l'été et qui correspond en fait au nouveau mode de déploiement des Docker Swarm, etc. Donc c'est un petit peu gênant, c'est-à-dire que si on a des vues environnement, c'est bien pour tester la solution, mais que les nouveaux, si on veut tester rapidement et installer un environnement Docker, installer un Docker dessus sur Linux, il faut qu'on essaie de trouver comment installer une vieille version d'Ubuntu ou d'un autre Linux, mais qui est dans la liste. Et puis, il faut arriver à installer une vieille version de Docker, que ce soit la partie client ou la partie serveur. Ce qui est du coup, pour moi, un peu décevant. Je vous encourage, via le User Voice, à leur dire que ce serait bien d'avoir des versions un peu plus récentes.
Ok, c'est une public preview, donc ce n'est pas encore la GA.
Exact, quand on veut lancer un test rapidement, on a tendance toujours à déployer rapidement une version récente.
C'est vrai.
Sachant que vouloir installer la version X, Y ou Z de Docker, ce n'est pas forcément... simple.
Voilà. C'est compliqué.
Donc, ensuite, en fonction du système que tu auras, du Linux, la distribution Linux que tu utiliseras comme Dockerhost, il y aura deux options en fait, pour installer cet agent OMS. Donc, option numéro 1 sera d'installer directement l'agent OMS pour Linux, donc celui qui existait déjà, qui est passé en version Generally Available, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Donc, ça, c'est parfait pour, on va dire, tous les OS, à l'exception de CoreOS.
D'accord.
Parce que CoreOS, en fait, il n'autorise pas l'installation d'agents sur le host. Il est vraiment, c'est vraiment un micro OS. Et du coup, ils n'autorisent pas d'installer des tierces parties qui le feraient grossir. D'accord. Donc, en gros, si tu n'es pas sur du CoreOS, si tu es sur une distribution Linux, Y ou Z, tu peux installer l'agent directement sur le Dockerhost. Si tu es dans du CoreOS, ou si tu ne souhaites pas installer l'agent OMS directement sur le Dockerhost, tu peux installer l'agent OMS sous la forme d'un conteneur.
Ah.
Et donc ce conteneur sera relié via les sockets hein, directement au Dockerhost pour faire transiter l'information. D'accord. Et donc là, du coup, tu n'installes rien sur le Dockerhost et tu peux l'installer également sur le Docker. Voilà. Donc deux modes de déploiement de l'agent, soit on l'installe traditionnellement, soit on l'installe sous la forme d'un conteneur.
Ok.
À partir de là, eh ben, l'information, si on est sur les bonnes versions dont on a parlé, hein, l'information va être collectée et ensuite, dans le portail OMS, on aura l'accès à une zone qui s'appelle Container Solution. Et là, donc, on aura des jolis graphiques tout faits. Et puis, on pourra également faire de la recherche directement si on sait quel type d'information on recherche. On peut faire également ses propres dashboards. Voilà. Donc, rappelons-le, je râle un petit peu sur les versions supportées, mais en fait, c'est une version préliminaire. Dans le futur, du coup, ça permettra effectivement, simplement, dès qu'on déploiera un nouveau Dockerhost, on peut directement, rapidement instancier un nouveau container avec l'OMS Agent à l'intérieur, et directement, ça va collecter et remonter l'information de manière centralisée, ce qui permettra d'avoir une visualisation pas trop mal, et une bonne recherche, entre guillemets, de tout ce qui peut être généré comme log et performance par ces fameux containers Docker.
Cool.
Au passage, du coup, hier, j'avais posé la question sur la fameuse article quid d'Ubuntu 16.04 et Docker 1.12.
Oui.
On m'a répondu qu'effectivement, ils étaient en train de travailler sur Ubuntu 16.04 et que ça va bientôt sortir. Voilà.
Ah. Ok. On croise les doigts.
Exactement.
Pour pouvoir le tester plus simplement.
Cool.
Ok, donc on va terminer avec le chapitre concurrence punchy. pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, la semaine prochaine commence une conférence à Las Vegas qui a lieu tous les ans, qui s'appelle VMworld, de nos amis de VMware. Mm-hmm. Et donc, c'est pas un hasard si les annonces côté Windows Server commencent à sortir avec des annonces un petit peu comparatives hein, sur les capacités, notamment d'Hyper-V par rapport à VMware. C'est un petit peu le jeu tous les ans, hein, Stan. On a connu ça déjà. Et là, je dois dire qu'on fait assez fort côté Windows Server avec deux choses. Une annonce qui concerne une offre pour la migration de VMware vers Hyper-V et une deuxième annonce qui concerne les performances pures et dures. Alors là, on est vraiment dans la scalabilité, dans les performances quoi, d'Hyper-V, Hyper-V Server. Quoi. Donc la première, l'offre pour la migration de VMware vers Hyper-V, ben c'est simple. Si vous avez du VMware et que vous voulez migrer vers Hyper-V, on vous offre la licence Windows Server Data Center qui va bien. Et donc, il vous restera quand même à vous acquitter de la DIM qui est la software assurance pour le mode de licence en volume qui est associé. Mais la licence elle-même de Windows Server Data Center vous est offerte.
Donc, rappelons qu'avec une licence Windows Server Data Center, on peut faire tourner autant d'instances virtuelles Windows que l'on veut.
Eh oui.
Et ou autant de containers Hyper-V que l'on veut.
Ouais.
En 2016.
Exactement.
C'est assez agressif comme approche.
Plutôt, oui. Parce que c'est pas donné quand même. J'ai pas les prix en tête, mais c'est pas donné. C'est petite licence.
Bien sûr. Mais ça, pour nos amis qui aiment les calculs de TCO, je crois que du coup, il y a un outil qui va être mis à disposition qui permettra de voir la différence avant-après. Et donc, du coup, ils ont même fait un site web là-dessus hein, qui s'appelle VMware Shift. Ah. Microsoft.com/VMware Switch. Voilà.
Switch.
Et donc là, ils vont expliquer pourquoi c'est cool de venir chez nous.
Bon, évidemment, on attendra la réponse de VMware la semaine prochaine, hein, qui ne manquera pas, c'est clair. Nous, on prend du popcorn et on regarde.
Exactement.
Donc, deuxième annonce, les performances pures d'Hyper-V sur Windows Server 2016. Et là, on est dans des chiffres qui sont impressionnants.
Oui, comme chaque fois quand on sort une nouvelle version de Windows, Pascal, et c'est un petit peu de bonne guerre avec tous les autres concurrents, c'est de jouer à celui qui aura la plus grosse. Et effectivement,
performance,
plus grosse performance, tout à fait. Et donc là, si on compare effectivement le Windows Server 2012 au 2016, le 2016 va être beaucoup mieux. Et là, on est sur les chiffres extrêmes. Donc Pascal, tu veux un petit peu nous faire le delta entre un 2012 R2 et un 2016 en termes de machine la plus grosse qu'on puisse avoir.
Alors, en ce qui concerne la mémoire physique par machine physique, donc de data center, enfin standard et data center de 2012 R2 à 2016, on passe de 4 Tera maximum à 24 Tera maximum. Donc on multiplie par 6 la RAM physique qu'on supporte. En termes de nombre de processeurs logiques au niveau du host, donc les processeurs logiques c'est socket fois cœur fois 2 si on est en hyper-threadé, c'est ça Stan?
Je n'ai pas compris.
Le nombre de processeurs logiques sur une machine physique.
Alors, le nombre de processeurs logiques s'obtient en fait en prenant le nombre de cœurs multiplié par le nombre de sockets, c'est-à-dire le nombre de processeurs physiques,
voilà.
Multiplié par 2 si on est sur l'hyperthreading. Je ne pense pas que l'hyperthreading fasse plus de 2, donc on multiplie par 2.
Voilà, donc on passe là de 320 à 512 processeurs logiques maximum. En termes de mémoire par machine virtuelle, donc on était à 1 teraoctet par machine virtuelle en 2012 R2, on passe à 16 teraoctets de RAM pour une machine virtuelle. Je ne sais pas dans quelle config on fera ça, mais...
C'est vraiment des configs extrêmes, je pense. À part des gros serveurs SAP, je vois peu de workloads qui demandent autant de RAM sur une VM. Mais voilà, là encore, on est aussi sur une guerre de chiffres les plus grands. C'est juste qu'effectivement, voilà. Ça, si ça a été jusqu'à 16, c'est-à-dire que ça a été testé en fait à 16.
Voilà, c'est testé jusqu'à 16. Et enfin, les nombres de processeurs virtuels par machine virtuelle, on pouvait monter jusqu'à 64 processeurs virtuels par machine virtuelle en 2012 R2, on peut monter maintenant jusqu'à 240 processeurs virtuels par machine virtuelle. Donc multiplié par 375, la performance. Voilà, c'est de la folie, quoi, ces chiffres. Ça veut dire que ça a été testé, comme tu disais, Stan. Donc on est supporté, en fait, jusqu'à ces chiffres-là. Donc si vous avez une machine avec 24 Tera de RAM, vous pouvez faire marcher sans problème 3 machines virtuelles à 8 Tera de RAM, ou une à 16 et l'autre à 8, par exemple. Et ben voilà, on a fait le tour de ce qu'on avait prévu de vous raconter pour cette rentrée. Très riche. Donc, que dire d'autre, Stan ? Ben, on se donne rendez-vous dans 2 semaines si nos agendas respectifs qui se chargent beaucoup en ce moment le permettent.
Écoute, ça devrait le faire. Donc, dans 15 jours, on sera encore avant Ignite. Donc, peut-être que le VMworld sera passé, qu'il y aura eu d'autres annonces qui sont sorties entre-temps.
Oui.
La plateforme Azure, de toute façon, continue à évoluer en permanence, donc on aura forcément quelques petites nouveautés à raconter. Et puis, probablement également qu'on sera en pré-Ignite avec quelques pré-annonces qui ont été faites. Donc, ce sera donc le prochain épisode. Et l'épisode qui suivra, donc l'épisode N plus 2, devrait être assez riche, parce que là, on aura eu toutes les annonces d'Ignite à vous raconter, plus éventuellement des choses sur MS Experience, qui est donc l'événement qui aura lieu le 4 et 5 octobre à Paris.
Voilà, bonne rentrée à tous, bon courage pour redémarrer l'ex-activité.
Ouais. Et puis on se retrouve. Et vive la clim,
profitez-en. Et bon week-end.
Au revoir.
Au revoir.